24. Dès qu'ils atteignirent le parking, Ralph descendit du pick-up. Il croisa Holly en contournant le capot, et cette fois, c'est elle qui le prit dans ses bras. Une étreinte brève, mais ferme. Le SUV de location s'était presque entièrement consumé, et la fumée devenait moins épaisse. Yunel se glissa sur le siège du passager, en grimaçant et en réprimant des gémissements de douleur. Quand Ralph se pencha à l'intérieur de la cabine, le lieutenant lui demanda « Vous êtes sûr qu'il est mort ?» Ralph savait qu'il ne parlait pas de Hoskins. « Vous en êtes certain ?»«
Oui.
Il n'a pas fondu comme Elphaba Trop dans Le Magicien d'Oz, mais presque. Quand ça va chier là-bas, ils ne retrouveront que ses vêtements, et peut-être un petit tas de verres morts. » Yunel fronça les sourcils.
« Des verres ?»«
Vu la vitesse à laquelle ils mourraient, » dit Holly, « je pense qu'ils vont se décomposer très rapidement. Mais il y aura de l'ADN sur les vêtements. Et s'il le compare avec celui de Claude, il se peut qu'il découvre des similitudes. »
Ou un mélange des ADN de Claude et de Terry. Car il n'avait pas achevé sa transformation, vous l'avez remarqué, hein ? Holly hocha la tête. Donc, l'analyse de l'ADN ne vaudra rien. Je pense que Claude ne sera pas inquiété. Ralph sortit son téléphone de sa poche et le déposa dans la main valide de Yunel. Vous pourrez passer les appels dès que vous aurez du réseau ?
Claro.
Et vous savez dans quel ordre ? Tandis que le lieutenant les énumérait, ils entendirent des sirènes au loin, venant de Tippit. Quelqu'un avait fini par remarquer la fumée, apparemment. Mais cette personne n'avait pas pris la peine de venir voir ce qui se passait. C'était sans doute aussi bien.
« D'abord le procureur Bill Samuels, » dit Yunel, « puis votre femme, puis le chef Geller, et pour finir, le capitaine Horace Kinney, de la police de la route du Texas. Tous les numéros sont enregistrés dans vos contacts. Quant aux Bolton, on leur parlera de vive voix. »«
Je leur parlerai, » précisa Holly. « Vous, vous resterez tranquille et vous reposerez votre bras. »
« Il est capital que Claude et sa mère se calent sur notre histoire, » dit Ralph. « Maintenant filez. Si vous êtes toujours là quand les pompiers arrivent, vous allez vous retrouver coincé. » Après avoir réglé le siège et le rétroviseur, Holly se tourna vers Yunel et Ralph, toujours penchée à l'intérieur. Elle semblait fatiguée, certes, mais pas épuisée. Les larmes étaient passées. Il ne voyait sur son visage que concentration et détermination.
« Il faut que ça reste simple, » dit-elle. Et le plus près possible de la vérité.
« Vous avez déjà vécu ça, » dit Yunel. « Ou quelque chose de semblable, n'est-ce pas ?»«
Oui. Ils nous croiront, même si des questions restent sans réponse. Et vous savez pourquoi tous les deux. Ralph, les sirènes se rapprochent. Il faut qu'on y aille. »
Ralph ferma la portière du passager et le regarda s'éloigner à bord du pick-up de son collègue mort. Il songea que Holly devrait rouler sur le bas-côté pour contourner la chaîne, mais il était certain qu'elle se débrouillerait très bien, zigzagant entre les nids de poules pour épargner le bras de Yunel. Il croyait ne pas pouvoir l'admirer davantage. Eh bien si. Il se dirigea d'abord vers le corps d'Alec, car c'était le plus difficile à déplacer. Si l'incendie du véhicule était presque éteint, la chaleur qui s'en dégageait restait intense. Le visage et les bras d'Alec avaient noirci, il n'avait plus de cheveux. Et en le prenant par la ceinture pour le traîner vers la boutique de souvenirs, il s'efforça de ne pas penser aux morceaux de chair craquant et fondu qui restaient dans son sillage. Ni combien Alec ressemblait maintenant à l'homme qui se trouvait devant le palais de justice ce fameux jour.
« Il ne lui manque plus qu'une chemise jaune sur la tête, » pensa-t-il, et cela lui fut fatal.
Lâchant la ceinture, il parvint à s'éloigner d'une vingtaine de pas en titubant et, penché en avant, main sur les genoux, il vida son estomac. Cela étant fait, il retourna achever la tâche qu'il avait commencée en traînant d'abord Alec, puis Howie Gold, à l'ombre de la boutique de souvenirs. Il se reposa, le temps de reprendre son souffle, puis examina la porte de la boutique. Elle était fermée par un cadenas, mais paraissait fragile et abîmée par les intempéries. Au second coup de pied, les gonds cédèrent. À l'intérieur, régnait l'obscurité et une chaleur explosive. Les étagères n'étaient pas entièrement vides. Il restait quelques t-shirts portant l'inscription « J'ai exploré la grotte de Marysville ». Il en prit deux et les secoua pour ôter la poussière, autant que possible. Dehors, les sirènes se rapprochaient. Ralph se dit que les pompiers ne voudraient pas prendre le risque de rouler sur le bas-côté avec leur matériel coûteux. Ils s'arrêteraient pour couper la chaîne. Cela lui laissait un peu de temps. Il s'agenouilla et couvrit les visages des deux hommes. Des hommes bien qui auraient pu légitimement espérer vivre encore quelques années. Seul point positif, si tant est qu'il y ait quelque chose de positif dans tout cela, le chagrin de leurs proches ne servirait pas de repas à un monstre. Il s'assit à côté d'eux, en tailleur, les bras appuyés sur les genoux, menton sur la poitrine. Était-il responsable de ces deux morts également? En partie, peut-être, car le fil des événements ramenait toujours à l'arrestation catastrophique de Terry Maitland. Pourtant, malgré son état d'épuisement, Ralph sentait qu'il n'était pas obligé d'endosser la responsabilité de tout ce qui s'était passé. « Ils nous croiront », avait dit Holly. « Et vous savez pourquoi tous les deux ?» Ralph, lui, le savait. Il croirait même une histoire bancale, car des empreintes de pas ne s'arrêtaient pas subitement et des asticots ne se développaient pas à l'intérieur d'un melon à la peau épaisse et intacte. Ils y croiraient car admettre une autre explication, ce serait remettre la réalité en question. Impossible de ne pas remarquer l'ironie de la situation. Ce qui avait protégé la créature au cours de sa longue existence de meurtrier les protégerait aujourd'hui. Un univers infini, pensa Ralph. Et il attendit à l'ombre de la boutique de souvenirs l'arrivée des pompiers. 25. Droite comme un I, les mains à 10h10 sur le volant. Holly avait mis le cap sur la maison de Bolton et écoutait Yunel passer les coups de téléphone. Bill Samuels fut horrifié d'apprendre que Howie Gold et Alec Pelley étaient morts. Mais le lieutenant coupa court à ses questions. Chaque chose en son temps. Samuels devait réinterroger tous les témoins, en commençant par Willow Rainwater. Il lui expliquerait que de sérieuses interrogations étaient apparues concernant l'identité de l'homme qu'elle avait pris en charge devant le club de striptease pour le conduire à la gare de Dubrow. Était-elle toujours certaine qu'il s'agissait de Terry Maitland?
« Essayez de l'interroger de manière à instiller le doute, » dit Yunel. « Vous pensez en être capable ?»«
C'est ce que je fais devant des jurés depuis 5 ans, »
répondit Samuels.
« Et d'après son témoignage, Mademoiselle Rainwater nourrissait déjà quelques doutes, comme d'autres témoins d'ailleurs, surtout depuis la diffusion de l'enregistrement de Terry Maitland à Cap City. Il totalise 500 000 de vues sur YouTube. Maintenant, parlez-moi de Howie et d'Alec. »
Plus tard. Le temps presse, monsieur Samuels. Interrogez les témoins en commençant par mademoiselle Rainwater. Autre chose, à propos de notre réunion d'avant-hier, c'est muy importante. Alors écoutez bien.
Samuels écouta. Samuels acquiesça. Et Yunel appela ensuite Janet Anderson. Cet appel dura plus longtemps car elle avait besoin, et méritait, d'explications détaillées. Quand il eut achevé son récit, il eut quelques larmes, de soulagement peut-être. Des hommes avaient trouvé la mort, Yunel lui-même était blessé, mais son mari, le père de son fils, était sain et sauf. Le lieutenant lui expliqua ce qu'elle devait faire, et Janet accepta immédiatement. Il se préparait à passer le troisième appel au chef de la police de Flint City, Rodney Geller, quand ils entendirent d'autres sirènes venant dans leur direction. Deux véhicules de la police de la route les croisèrent à toute allure. Il roulait vers la grotte de Marysville.
Avec un peu de chance, commenta Yunel, un de ces troopers sera celui qui s'est rendu chez les Bolton. Stape, je crois.
Sipe, corrigea Holly. Owen Sipe, comment va votre bras?
Ça fait toujours un mal de chien. Je vais prendre les 2 ibuprofènes qui restent.
Non, trop d'un coup, c'est mauvais pour le foie. Passez les autres coups de téléphone, mais avant cela, effacez les numéros que vous venez d'appeler, ceux de M. Samuels et de Janet Anderson.
Vous auriez fait un sacré escroc, señorita.
Je suis prudente, voilà tout.
Elle ne quittait pas la route des yeux, bien que celle-ci soit déserte. Elle appartenait à cette race de conducteurs.
Faites-le, et ensuite, passez les derniers appels.
26. Il se trouva que Lovie Bolton avait quelques vieux comprimés de Percocet pour lutter contre le mal de dos. Yunel en avala 2 en remplacement des ibuprofènes. Et Claude, qui avait suivi des cours de secourisme durant son 3e et dernier séjour en prison, banda sa plaie au bras, pendant que Holly leur exposait le plan. Rapidement. Et pas uniquement parce qu'elle voulait que le lieutenant Sablo reçoive de véritables soins le plus vite possible. Il fallait que les Bolton comprennent bien leur rôle avant l'arrivée des autorités. Ce qui n'allait pas tarder. La police aurait des questions à poser à Ralph et il serait obligé d'y répondre. Au moins, elle ne devait pas affronter leur incrédulité. Lovie et Claude avaient senti l'un et l'autre la présence de l'outsider deux soirs plus tôt, et même avant, dans le cas de Claude. Un sentiment d'inquiétude, l'impression d'être dédoublé, épié.
« Pas étonnant que vous l'ayez senti, » dit Holly d'un ton grave. « Il était en train de piller votre esprit. Vous l'avez vu. Il se cachait dans cette grotte et vous l'avez vu.
Oui.
Et il me ressemblait. Presque trait pour trait. »
Lovie intervint, timidement.
« J'aurais remarqué une différence ?»
Holly sourit.
« Au premier coup d'œil, j'en suis sûr. Lieutenant Sablo, Yunel, vous êtes prêt à repartir ?»«
Oui. » Il se leva. « C'est ça qui est super avec les drogues dures. Vous avez encore mal, mais vous vous en foutez. »
Claude éclata de rire et pointa son doigt sur Yunel, à la manière d'un pistolet.
« Bien vu, mon pote !»
Voyant le regard réprobateur de sa mère, il ajouta
« Pardon, maman. Vous avez bien compris ce que vous devez dire à la police ?»
demanda Holly.
« Oui, madame, » répondit Claude. « C'est facile. On peut pas se gourer. Le procureur de Flint City envisage de rouvrir l'affaire Maitland et vous êtes venu ici pour m'interroger. »
« Et qu'avez-vous déclaré ?»«
Plus j'y repense, plus je suis sûr que c'est pas Coach Terry que j'ai vu ce soir-là, mais quelqu'un qui lui ressemblait. »«
Quoi d'autre ?»
demanda Yunel. « C'est très important. » Ce fut Lovie qui répondit.
« Vous êtes repassé ce matin pour nous dire au revoir et nous demander si, par hasard, on n'avait pas oublié quelque chose. Au moment où vous alliez repartir, il y a eu un coup de téléphone. »
« Sur votre poste fixe ?» ajouta Holly, en songeant.
« Dieu soit loué, ils en ont toujours un. » « Oui, sur notre poste fixe. L'homme a dit qu'il travaillait avec l'inspecteur Anderson. »
« Et celui-ci lui a parlé ?» dit Holly.
« Exact. L'homme a dit à l'inspecteur Anderson que le type que vous cherchiez, le véritable meurtrier, se cachait dans la grotte de Marysville. »
« Tenez-vous-en à cette version, et merci à tous les deux. »
« C'est nous qui vous remercions, »
dit Lovie. Elle tendit les bras.
« Approchez, Miss Holly Gibney. Venez faire un câlin à cette bonne vieille Lovie. »
Holly se pencha au-dessus du fauteuil roulant. Après l'épisode dans la grotte de Marysville, les bras de Lovie Bolton étaient réconfortants, nécessaires même. Elle y resta le plus longtemps possible. 27. Marcy Maitland se méfiait terriblement des visites depuis l'arrestation publique de son mari, et encore plus depuis son exécution. Et donc, quand elle entendit frapper à la porte, elle alla d'abord à la fenêtre, et entr'ouvrit les rideaux pour risquer un coup d'œil dehors. L'épouse de l'inspecteur Anderson se tenait sur le perron, et elle semblait avoir pleuré. Marcy s'empressa d'aller lui ouvrir. Oui, c'était bien des larmes. Et dès que Janet vit l'inquiétude sur le visage de Marcy, elles réapparurent.
« Qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Ils vont bien ?»
Janet entra.
« Où sont vos filles ?»« Dans le jardin, derrière, sous le gros arbre. » Elles font des parties de cribbage avec le jeu de cartes de leur père. Elles y ont joué hier toute la soirée, et elles ont recommencé ce matin, de bonne heure. Que se passe-t-il ?
Janet la prit par le bras et l'entraîna dans le salon.
Vous feriez mieux de vous asseoir.
Marcy demeura où elle était.
Dites-moi. J'ai de bonnes nouvelles, mais aussi de terribles nouvelles. Ralph et cette femme, Holly Gibney, sont sains et saufs. Le lieutenant Sablo a reçu une balle, mais on pense que ses jours ne sont pas en danger. En revanche, Howie Gold et M. Pellet sont morts, abattus par un collègue de mon mari, l'inspecteur Jack Hoskins.
Morts ? Morts ? Comment peuvent-ils ? Marcy s'assit lourdement dans le fauteuil qui avait été celui de Terry, sans quoi elle serait tombée. Elle leva vers Janet un regard empreint d'incompréhension.
« Vous parliez de bonnes nouvelles ? Comment est-ce que... Oh, Seigneur, c'est de pire en pire. Elle enfouit son visage dans ses mains. Janet s'agenouilla près d'elle et l'obligea à la regarder, avec douceur, mais fermeté.
Ressaisissez-vous, Marcy. Je ne peux pas. Mon mari est mort, et maintenant, ça... Je crois que je ne pourrai jamais me ressaisir, même pour Grace et Sarah. Assez.
Janet n'avait pas haussé la voix, mais Marcy tressaillit comme si elle avait reçu une gifle.
Rien ne pourra vous rendre Terry, mais deux braves types sont morts en tentant de défendre son nom, pour permettre à vos filles de vivre dans cette ville. Eux aussi ont des familles. En partant d'ici, je vais aller voir Hélène Gold. Ce sera affreux. Yunel a été blessé, et mon mari a risqué sa vie. Je sais que vous souffrez, mais là, il ne s'agit pas de vous. Ralph a besoin de votre aide, les autres aussi. Alors, reprenez-vous et écoutez-moi. D'accord.
Janet prit une des mains de la veuve dans la sienne. Marcy avait les doigts froids, et sans doute que les siens n'étaient guère plus chauds.
Tout ce que nous a raconté Holly Gibney est vrai. Cet outsider existait bel et bien, et ce n'était pas un être humain. C'était autre chose. Appelez-le El Cuco, appelez-le Dracula, fils de Sam ou de Satan, ça n'a pas d'importance. Il était là-bas, dans une grotte. Ils l'ont découvert et ils l'ont tué. Ralph m'a dit qu'il ressemblait à Claude Bolton, alors que le véritable Claude Bolton se trouvait à des kilomètres de là. J'ai parlé à Bill Samuels avant de venir ici. Il pense que si on raconte tous la même histoire, tout ira bien. On réussira sans doute à laver la réputation de Terry. Si on raconte tous la même histoire, vous en êtes capable?
Janet vit l'espoir envahir les yeux de Marcy Maitland comme l'eau remplit un puits.
Oui. Oui, j'en suis capable. Mais quelle histoire? La réunion qu'on a organisée avait pour seul but d'innocenter Terry. Rien d'autre. C'était juste pour l'innocenter. Voilà. Au cours de cette réunion, Bill Samuels a accepté de réinterroger tous les témoins, en commençant par Willow Rainwater, d'accord? Oui, d'accord. S'il n'a pas pu commencer par Claude Bolton, c'est parce que M. Bolton se trouve au Texas, où il s'occupe de sa mère malade. Oh oui, a suggéré qu'Alec, Holly, mon mari et lui se rendent sur place pour interroger Claude. Gunnell a promis de les rejoindre s'il le pouvait. Vous vous en souvenez? Oui, oui, dit Marcy en hochant la tête. On trouvait tous que c'était une excellente idée. Mais j'ai oublié pour quelle raison Mademoiselle Gibney assistait à cette réunion. Alec Pellet l'avait engagée pour enquêter sur les faits et gestes de Terry dans l'Ohio. Elle s'est passionnée pour cette affaire, alors elle est venue voir si elle ne pouvait pas apporter son aide. Ça vous revient maintenant? Oui.
Sans lâcher la main de Marcy, en la regardant droit dans les yeux, Janet aborda le dernier point, le plus important.
Nous n'avons jamais parlé de créatures qui changent d'apparence, d'El Cuco, de fantômes, ni de quoi que ce soit qui puisse être qualifié de surnaturel. Non, absolument. Cela ne nous a même pas traversé l'esprit, il n'y avait aucune raison. Nous pensions qu'un individu ressemblant à Terry avait assassiné le jeune Peterson et tenté de le faire accuser à sa place. Et nous avons surnommé cet individu l'Outsider. Exact, dit Marcy en serrant la main de Janet dans la sienne. C'est comme ça qu'on l'appelait, l'Outsider.